Excellent réveil à tous, voici le journal d'Adrien Toffolet. Bonjour Adrien.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Emmanuel Macron et Jean Castex passent à la vitesse supérieure face au Covid-19. Le calendrier s'apprête à être revu. Deux conseils de défense organisés ce matin et demain, des réunions à Matignon avec les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, les chefs de parti, les représentants d'élus locaux et les partenaires sociaux. La France se prépare à subir la seconde vague, précision de Pierre Neveu.
À moins d'une semaine de la rentrée des classes, les décisions du gouvernement auront certainement des conséquences sur l'école, sur la vie des parents et des élèves. Pour limiter la propagation de la maladie, plusieurs voies dans les autorités de santé plaident d'ailleurs pour le port du masque généralisé à tous les élèves, même avant 11 ans. Éclairage de Daniel Messager.
Dans l'actualité également, la justice doit rendre sa décision aujourd'hui sur le référé demandant l'annulation de la fermeture de la mosquée de Pantin. Ses responsables sont accusés d'avoir partagé la vidéo diffamatoire du parent d'élève avant l'assassinat de Samuel Paty. Son avocat dénonce une décision politique de la part de Gérald Darmanin, vous l'entendrez.
Direction la Turquie où le président turc Recep Tayyip Erdogan demande à ses concitoyens de s'impliquer dans son combat contre la France et la liberté d'expression. Il a appelé au boycott des produits français dans son pays, mais les Turcs sont partagés sur la question. Reportage dans les rues d'Istanbul à suivre.
Et puis aux États-Unis, c'est la dernière ligne droite, J-7 avant la présidentielle, avec un Donald Trump qui multiplie les meetings avec l'espoir de rattraper son retard sur Joe Biden. Dans la lutte contre le Covid, il ne s'agit plus de savoir s'il y aura un durcissement des restrictions pour lutter contre sa propagation. L'heure est aujourd'hui à savoir quand et comment cela entrera en vigueur. Face à la deuxième vague qui touche durement le pays, le président de la République a décidé de réunir deux conseils de défense, l'un ce matin, l'autre demain, en présence des ministres en première ligne, Olivier Véran, Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ainsi que des autorités de santé. Le mot d'ordre de l'exécutif est simple, pas question de perdre de temps, Pierre Neveu.
Depuis la rentrée de septembre, la doctrine de l'exécutif était « il faut vivre avec le virus ». Doctrine qui va évoluer au regard de la progression de l'épidémie et de l'inquiétude des médecins et épidémiologistes. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, expliquait hier encore que la situation était devenue critique. C'est donc une décision lourde de conséquences que va prendre le chef de l'État dans les prochaines heures. Avant d'annoncer de nouvelles restrictions, Emmanuel Macron a décidé de modifier son agenda. Il annule un déplacement au Creusot consacré à la filière nucléaire pour convoquer ce matin à l'Élysée un conseil restreint de défense et de sécurité nationale. Charge au Premier ministre d'expliquer et de convaincre les forces politiques et les partenaires sociaux dans l'après-midi. L'Élysée et Matignon privilégient la concertation avant ce qui semble être un tour de vis supplémentaire. La situation sanitaire impose de nouvelles mesures, extension du couvre-feu, confinement spécifique des personnes les plus fragiles, confinement territorialisé. Toutes ces mesures sont sur la table. Les derniers arbitrages seront rendus a priori demain matin à l'issue d'un nouveau conseil de défense.
Pierre Neveu, sur le front de l'épidémie, plus de 2700 malades du Covid sont désormais hospitalisés en réanimation. C'est près de la moitié de la capacité en lit de ces services dans le pays qui est utilisée. On note également une nouvelle hausse des hospitalisations ces dernières 24 heures. Près de 27 000 personnes testées positives hier. Quant à l'épidémie au niveau mondial, l'Europe est un peu plus balayée par la seconde vague. En Italie, par exemple, le virus circule activement, si bien qu'à Rome, le Vatican prévoit que le pape François officiera sans fidèles pour les messes de l'Avent et de Noël. En revanche, en Australie, Melbourne célèbre l'absence de nouveaux cas de coronavirus détectés pour la deuxième journée consécutive. De bon augure alors que la nuit prochaine, les 5 millions d'habitants de la ville doivent tourner la page à 3 mois de confinement. Parmi les nombreux éléments à anticiper en France avec le renforcement des restrictions sanitaires, il y a la rentrée des classes lundi prochain. À 7h, elle est maintenue pour tous les élèves et devra s'adapter aux éventuelles extensions du couvre-feu ou reconfinement dans le pire des cas. La question du port du masque aux enfants de moins de 11 ans pourrait également être mise sur la table. Certains épidémiologistes le demandent, car les plus jeunes aussi, même s'ils sont moins touchés et moins transmetteurs, pourraient participer à la transmission dans cette période où le virus circule déjà beaucoup. Explication de Daniel Messager.
Peu contaminant ne veut pas dire pas contaminant du tout. Faut-il alors, comme pour leurs aînés de plus de 11 ans, imposer le port du masque aux plus jeunes? Le professeur Robert Cohen, pédiatre et infectiologue à l'hôpital intercommunal de Créteil, rappelle la faible contamination chez les jeunes enfants, mais l'éventualité du masque ne peut pas être complètement rejetée car le virus circule vraiment beaucoup.
Grosso modo, ils sont 2 à 5 fois moins contaminés que les adultes. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'ils sont Contaminants, oui, peuvent l'être, mais là encore, moins que les adultes, moins contaminés, moins contaminants, mais si la circulation du virus est très 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 intense, ce qui est le cas actuellement. On peut s'imaginer qu'on est loin du risque zéro et on le comprend tout à fait bien.
Alors que bruissent les rumeurs de reconfinement, les écoles avec cette contrainte de masque pourraient-elles rester ouvertes? C'est pour le pédiatre le plus important.
Le point essentiel, c'est le maintien de l'école en présentiel pour la majorité des enfants. La reprise de l'école a été pour nous un succès complet sur le plan des élèves.
Selon l'OMS, dans la tranche d'âge 6-11 ans, le masque ne se justifie que si le virus se transmet largement sur leur lieu de résidence et si l'enfant est en mesure de l'utiliser de façon appropriée et sans risque.
Daniel Messager. Quoi qu'il sera décidé par l'exécutif, les conséquences économiques vont s'alourdir. C'est déjà le cas avec le couvre-feu, on le sait, des conséquences sur les métiers de la restauration notamment, mais aussi sur la vie des taxis et des VTC, en particulier dans les grandes métropoles comme Paris, où beaucoup d'entre eux travaillent la nuit. Baisse brutale de la demande, des attentes interminables avant d'avoir un client. Thomas Giraudeau est monté dans le taxi d'Habib Benjeffal, secrétaire de l'association des nouveaux taxis parisiens. Et vous allez l'entendre, ces heures de nuit ont tourné court, faute de clients.
On ne peut pas quantifier, parce que c'est trop tôt, la perte de chiffre d'affaires, si vous voulez. Mais par contre, vous dire qu'à 21h, il n'y a plus d'activité, c'est certain.
Il y a ces attentes qui sont interminables, qui sont très compliquées.
Ah bah voilà, une course. On va chercher, rue de Messine.
Ça ? Bonsoir monsieur.
On va au 24 rue Rodier,
d'accord,
dans le 9e arrondissement.
Très bien.
En fait, on est en train de sauver les meubles pour payer les charges, tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, on va basculer en journée. Je sais qu'on sera beaucoup, nombreux. Les attentes entre chaque course vont être énormes. C'est pas que les taxis de la nuit qui en pâtissent, c'est les taxis de jour aussi, parce que ils retrouvent leurs collègues de la nuit qui viennent manger leur part de gâteau, entre guillemets, quoi. Voilà.
Sauf que le gâteau, il reste le même, quoi.
Le gâteau reste le même, il a même rétréci, vu que finalement on n'a plus toute la clientèle de tourisme, tous les hommes d'affaires. Mécaniquement, nous allons faire moins de courses à cause du nombre de collègues qui va être sur le terrain et de la circulation qui va être beaucoup plus dense en journée.
Merci beaucoup.
Mais c'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci. Une petite course quotidienne, 12,60 €. On attend longtemps pour faire des petites courses. J'ai peur de voir comme les commerces que je croise de temps en temps avec bail à céder, etc. Je pense qu'il y aura la même chose chez nous. Il y aura plein de personnes qui vont soit céder leur licence, soit partir de la profession, arrêter directement. On va arrêter les dégâts, on va aller se coucher pour se lever un peu plus tôt demain et commencer un peu plus tôt la journée.
Témoignage recueilli par Thomas Giraudeau. Pour ce qui est de la réponse à la crise économique, l'Assemblée nationale a voté cette nuit en première lecture une partie du budget du plan de relance dédié à faire face à la crise économique causée par la première vague. 22 milliards d'euros de crédits débloqués pour 2021 qui font partie du plan global de 100 milliards prévu par le gouvernement. Le texte fera maintenant l'objet d'un vote solennel le 17 novembre, puis d'un examen au Sénat pour une adoption définitive au plus tard le 18 décembre. Quel avenir pour la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis? Son avenir à court terme se joue aujourd'hui suite à l'audience en référé qui s'est tenue hier au tribunal administratif de Montreuil. Référé contre la fermeture pour 6 mois du lieu de culte effective depuis une semaine, l'une des mesures annoncées par Gérald Darmanin au surlendemain de l'attaque terroriste de Conflans-Sainte-Honorine. La vidéo diffamatoire du parent d'élève contre Samuel Paty avait été relayée sur les réseaux sociaux de la mosquée. L'imam qui officiait jusqu'hier est également accusé par les autorités d'être impliqué dans la mouvance islamiste. Le responsable de la mosquée a reconnu une faute morale mais souligne que la vidéo a été retirée le jour de l'assassinat et demande ainsi à la justice d'en tenir compte pour annuler la décision de fermeture. Quant à son avocat William Bourdon, il s'en est pris violemment au ministre de l'Intérieur. On l'écoute.
Il y a quelque chose qui s'est débridé dans ce pays. Il y a une espèce de surréaction que Darmanin incarne parfaitement après l'ignoble assassinat du professeur. Et dans cette surréaction, il y a une espèce d'engrenage dans lequel l'administration a plongé. Tout le monde doit s'interroger sur ce que veut dire aussi la brutalité, la précipitation avec laquelle ces mesures ont été prises. Je m'explique. Quand on sait que dans la plateforme Pharos, qui est au cœur d'une grave controverse, on sait qu'il y a eu un déficit invraisemblable, inexplicable de fonctionnaires. Ils sont d'un nombre, je crois, qui se compte sur les doigts de la main. Et que s'il y avait eu plus de fonctionnaires, peut-être que le devoir de vigilance que l'État s'est imposé à lui-même aurait pu permettre de tracer une espèce de machine infernale qui était en train de se mettre en route. Que fait M. Darmanin, qui multiplie par 100 les fonctionnaires de Pharos, au lieu de mobiliser des milliers de policiers l'été pour arrêter les fumeurs de joie dans les rues de Paris ou dans les rues des grandes villes de France? C'est-à-dire que la fermeture de ces mosquées, c'est pas une espèce d'escroc de fumée pour masquer les dysfonctionnements dans la lutte contre le terrorisme, qui aujourd'hui sont largement attestés par les dysfonctionnements de la plateforme Pharos.
William Bourdon au micro d'Emmanuel Leclerc. La décision du tribunal est attendue dans la journée. Pour ce qui est du CCIF, le collectif contre l'islamophobie en France, dont l'influence est pointée du doigt depuis l'assassinat de Samuel Paty, Gérald Darmanin répète dans une interview à Libération qu'à ses yeux, l'organisation est une officine islamique qui agit contre la République. Le gouvernement, assure-t-il, dispose d'éléments permettant de proposer sa dissolution. Et puis, le Conseil français du culte musulman, qui avait fait part de son indignation au moment du drame de Conflans, prend position ce matin au sujet des caricatures. Invité de France Info, son président Mohamed Moussaoui dit ne pas souhaiter qu'elles soient à nouveau montrées dans les écoles. Le devoir de la fraternité nous impose à tous de renoncer à certains droits pour que la fraternité règne dans notre pays. Fin de citation.
8h10 sur France Culture, la suite du journal d'Adrien Toffolet. Pendant ce temps, en Turquie, Recep Tayyip Erdogan continue de flatter son électorat le plus religieux.
Après la dénonciation ce week-end des positions d'Emmanuel Macron vis-à-vis de l'islamisme, assortie d'insultes, arrive de sa part désormais la condamnation. Le président turc a appelé hier ses concitoyens à boycotter les produits français, une condamnation économique donc. Pour le traitement des musulmans en France, supposé discriminatoire par Recep Tayyip Erdogan, et pour réaffirmer son opposition à la liberté de caricaturer le prophète de l'islam. Dans la population turque, en revanche, l'appel du président Erdogan semble recevoir un accueil mitigé à Istanbul, à Nandlauer.
Assis au soleil près d'une rue commerçante du centre d'Istanbul, Mustafa, un retraité, soutient son président quand il appelle à boycotter les produits de marque française.
On est obligé de soutenir cet appel. On n'a pas le choix. Tous ceux qui vivent en Turquie doivent le soutenir. C'est une façon de protéger notre religion contre ceux qui l'attaquent. Tous ceux qui vivent dans ce pays doivent la protéger.
Un peu plus loin, Metin, un marchand de fruits et légumes, se dit a priori favorable à l'idée, tout en s'avouant incapable de citer une marque ou un produit français qu'il consomme régulièrement et pourrait donc boycotter. Mais pour lui, c'est une question de principe, une façon d'envoyer un message.
Je vois ça comme une réponse silencieuse et mesurée. Chacun devrait respecter les croyances d'autrui. Aujourd'hui, vous insultez ce que certains considèrent comme sacré. Demain, d'autres vous feront la même chose. Cela n'apporte rien de bon.
Ediz, un barbier, est quant à lui beaucoup plus sceptique quant à l'efficacité des appels au boycott et des discours provocateurs du chef de l'État turc.
J'ai reçu sur WhatsApp des messages d'amis disant ne pas acheter tel produit ou tel autre. Mais à quoi ça va servir concrètement d'acheter tel produit étranger et pas tel autre? Moi, je préférerais qu'on essaie d'apaiser les tensions.
Ces appels au boycott, largement relayés sur les réseaux sociaux, ne semblent toutefois pour l'instant pas encore suivis d'effet dans les rayons des magasins turcs.
Anne Hanlower, une explosion terroriste ce matin au Pakistan dans une école coranique de Peshawar dans le nord-ouest du pays. Une personne a apporté une bombe cachée dans un sac alors que se déroulait un séminaire religieux. On compte au moins 4 morts et 34 blessés. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Aux États-Unis, le temps file et les meetings politiques s'enchaînent. On est à une semaine de l'élection présidentielle maintenant. Dernière ligne droite d'une campagne hors norme aux enjeux mondiaux. Donald Trump est toujours distancé par Joe Biden dans les derniers sondages. Le président sortant, candidat à sa réélection, accélère alors le rythme, multipliant les prises de parole. À Washington, les précisions de Grégory Phillips.
3 meetings pour Donald Trump hier en une seule journée en Pennsylvanie. C'est la 12e fois depuis le début de l'année que le président se rend dans cet état qui sera peut-être déterminant mardi prochain. Aujourd'hui, le candidat républicain sera dans le Michigan, le Wisconsin et au Nebraska. Puis demain, direction le Grand Ouest américain avec un déplacement en Arizona et au Nevada. À bord d'Air Force One, le président avale les kilomètres comme pour rattraper le retard accumulé dans les sondages. Et l'équipe Trump 2020 veut encore accélérer la cadence et imagine pour la fin de la semaine peut-être 5 meetings par jour. Joe Biden, lui, va beaucoup plus lentement. Hier, une très courte conférence de presse improvisée en Pennsylvanie, mais rien à l'agenda. Aujourd'hui, le candidat démocrate sera en Géorgie. Demain, rien. Puis en Floride, après-demain. Un journaliste lui demande pourquoi il n'avait pas d'événement public au programme ces derniers jours. « Mais si, je voyage », répond Biden. « Je dois aller aussi en Iowa et dans le Wisconsin ». En réalité, l'ancien vice-président veut montrer qu'il respecte les consignes de prudence sanitaire et n'organise pas de grands meetings, contrairement à son adversaire. Et sa relative discrétion paye pour l'instant. Dans les sondages nationaux, Biden dispose à une semaine de l'élection d'environ 8 points d'avance sur Donald Trump. Il est aussi en tête dans la plupart des états clés.
Et puis en attendant une éventuelle victoire électorale, Donald Trump savoure ce matin la validation de son choix à la Cour suprême. Le Sénat américain vient de confirmer la nomination Daimi Kone Barrett au sein de l'institution, juge de 48 ans qui vient renforcer la ligne conservatrice au sein de la plus haute juridiction du pays. Seulement 3 membres sur un total de 9 siégeant à la Cour suprême sont des progressistes. C'est un jour historique pour l'Amérique, a tweeté le président américain. Les prévisions de Météo France nous annoncent un temps maussade aujourd'hui, ciel couvert et pluie sur une bonne moitié ouest du pays. Ailleurs, le ciel sera nuageux, des averses en Corse, seul le littoral méditerranéen sera baigné de soleil. Les températures minimales vont varier entre 5 et 11 degrés, les maximales entre 10 et 19 degrés.